tous, bienvenue sur le podcast Sonotone, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien vieillir. Je suis Emeline et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse à toutes les personnes concernées par le vieillissement ou la fin de vie. On interviewe des familles, des aidants, des personnes âgées, ainsi que des professionnels du secteur. Bienvenue dans ce 9e épisode dans lequel j'ai eu la chance de rencontrer Marie Lahaye, une psychomotricienne passionnée par son métier. Marie travaille à l'EHPAD Maison de Fontaudin, à Pessac, qui fait partie de l'association Chemin d'Espérance. C'est quoi être psychomotricienne aujourd'hui? Comment en est-elle venue à exercer ce métier passionnant? Marie nous raconte ses combats, à quels défis elle fait face et comment elle anime chaque jour son engagement auprès des résidents. Allez, branchez votre sonotone, c'est parti! Bonjour Marie, tu es psychomotricienne au sein de la Maison de Fontaudin.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la structure et te présenter aussi, s'il
D'accord.
te plaît.
Donc l'EHPAD de Fontaudin, c'est un EHPAD sur la commune de Pessac, qui est un EHPAD associatif à but non lucratif. Je précise parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mmh. Et moi, je travaille ici depuis 8 ans en
D'accord.
tant que psychomotricienne. Donc je m'appelle Marie Lahaye, je suis psychomotricienne depuis 14 ans. Et quand j'ai commencé mon métier, je ne voulais pas travailler en EHPAD. Voilà.
D'accord. Absolument pas.
Absolument pas. J'ai commencé en pensant travailler avec des enfants. Et c'est comme ça que j'ai débuté mon métier d'ailleurs. Et en fait, c'est par des rencontres que je suis devenue psychomotricienne en EHPAD. En fait, j'ai eu un coup de cœur avec l'ancienne directrice qui est restée très longtemps ici. Et en fait, tous mes préjugés que je pouvais avoir sur le monde de la gériatrie, le monde de l'EHPAD, des personnes âgées, l'accompagnement qu'on pouvait avoir sont tombés à ce moment-là. Ça a été vraiment...
Un coup de cœur.
Un coup de cœur. Mmh. Okay. Voilà.
Ok.
Et donc du coup, je pense que je travaille aussi en EHPAD parce que c'est cet EHPAD-là.
D'accord.
Voilà.
Ouais. Les valeurs aussi.
Voilà, les valeurs. Donc c'est un EHPAD associatif à but non lucratif qui a des particularités. C'est-à-dire qu'on accueille des prêtres et des sœurs aussi, mais aussi bien des laïcs.
D'accord.
Et on est rattaché à une association qui a son siège sur Paris et qui présente un peu les mêmes particularités. L'association a pour but à départ d'accueillir des personnes religieuses.
D'accord. Et l'association comprend combien de...
Alors l'association comprend une trentaine d'EHPAD sur toute la France. Elle en comprend deux sur Bordeaux et dans la région, ça commence un peu à grandir sur Pau, etc. Mm-mm. Mais c'est pas un gros groupe non plus. Hein. Mm. Au niveau national, c'est pas si gros que ça. L'EHPAD de Fontaudin, il comprend plein de services, en fait.
Ouais.
En fait, il y a 96 résidents qui sont accueillis ici.
Ok. C'est pas mal.
C'est pas mal. Donc, c'est un EHPAD de taille maintenant classique, on va dire. Hein. Mm. Les petits EHPAD de moins de 80, ça n'existe plus trop. Donc il y a 96 résidents, on a une unité protégée. Donc pour des personnes qui ont des troubles du comportement un peu plus importants et qui ont besoin d'être dans un endroit sécurisé pour eux. Et puis on a un accueil de jour qui compte 10 places. On a une plateforme de répit de soutien aux aidants, un pôle ressources. Donc c'est un EHPAD qui est dynamique et très ouvert à la fois dans ses projets intérieurs et internes et à la fois sur les projets qui mène sur l'extérieur et le domicile auprès des personnes âgées et des aidants. Voilà.
Ok. Donc toi, comment t'es arrivée à te dire, bah tiens, je vais être psychomotricienne?
C'est un hasard. C'est un hasard. Comme beaucoup de personnes, je connais pas le métier de psycho. Enfin, je connaissais pas le métier de psychomotricienne. En fait, j'ai fait médecine sur Bordeaux. Il fallait faire la première année de médecine pour être kiné ou ergothérapeute ou psychomotricien. Et moi, je voulais être kiné au départ, ne connaissant pas du tout le métier de psychomotricien. Et progressivement, j'ai appris ce que c'était. Et quand je suis rentrée en formation, j'ai eu le concours de psychomotricien et pas de kiné.
D'accord.
Du coup, j'ai décidé d'aller quand même à l'école de psychomotricité en sachant globalement ce que c'était, mais pas vraiment encore. Et j'ai découvert un peu sur le tas au cours de mes études, en fait.
Voilà. C'était un peu un non-choix.
C'est un peu un non-choix au départ, en sachant que je savais que j'étais toujours dans le soin quand même. Et l'accompagnement de l'autre, donc que ça me convenait, que j'étais toujours dans la relation d'aide, donc c'est quelque chose qui me convenait, mais effectivement je connaissais pas absolument toutes les difficultés, on va dire,
du métier,
voilà, les difficultés, mais aussi finalement je crois que des fois le non-choix, c'est bien et ça tombe bien, voilà. Mais là, en tout cas, pour moi, c'est bien tombé, on va dire.
Ça crée des opportunités.
Voilà, ça crée des opportunités. Donc, j'ai commencé comme ça. Et donc, le métier de psychomotricien, c'est un métier paramédical. Donc, on a un diplôme d'État à la fin. Et au même titre que les kinésithérapeutes, les infirmiers, les ergothérapeutes, on passe un diplôme. Et il faut ce diplôme absolument pour exercer. On ne peut pas être psychomotricien sans avoir eu ce diplôme-là. C'est une école qui dure 3 ans.
Okay, voilà.
C'est un peu un métier qu'on apprend aussi avec, en étant auprès des patients. Hein. Donc la théorie c'est bien, mais il faut pratiquer. Et donc du coup, moi j'ai fait beaucoup de stages auprès d'enfants et dans le handicap moteur surtout. Et dans le polyhandicap, donc avec des enfants et des adolescents handicapés moteurs, avec une déficience intellectuelle sévère et des troubles relationnels associés. Donc vraiment un handicap très lourd.
En tant que psychomotricienne, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais un peu tous les jours ? En quoi ça consiste ?
Alors, le métier de psychomotricien, déjà, on va essayer d'en donner un peu une définition parce que c'est pas forcément facile de se représenter ce que c'est, surtout, je pense, dans notre culture, où on est habitué à segmenter le corps humain en ses fonctions. Donc il y a les membres qui servent à bouger, le cerveau qui sert à réfléchir, et puis notre psychisme et notre vie affective qui nous sert à être en relation avec les autres, à être bien avec soi-même, etc. Et puis après, tout l'aspect cognitif qui nous permet de comprendre le monde. Et en fait, on a l'habitude de, même quand on va à l'hôpital, on va chez le cardiologue, on va chez le gastro-entérologue, on segmente en fait. Le métier de psychomotricien, c'est vraiment une approche globale en fait, où on prend la personne dans sa globalité et on essaie de comprendre sa façon qu'il a de fonctionner avec lui-même et avec les autres en fonction des différents aspects, donc la motricité, l'aspect cognitif et l'aspect psycho-affectif. Donc ça, c'est la théorie, voilà, globalement, en sachant qu'on travaille toujours par le biais de médiation corporelle, donc c'est-à-dire à travers notre corps et le corps de l'autre, des jeux, de la danse, du rythme, du dessin, ça peut être diverses choses, hein, pour remédier aux troubles qu'on peut apercevoir ou qu'on peut observer, ou en tout cas au mal-être ou à l'inconfort qu'on peut observer. Donc le métier de psychomotricien, bah, globalement par exemple, si on peut faire la différence avec le métier de kinésithérapeute ou le métier de psychologue, parce que c'est les deux qu'on connaît le mieux, le psychologue, il va vraiment s'intéresser à la vie affective de la personne et à ses interactions avec son environnement, mais plutôt sur les liens affectifs et les émotions que cela peut engendrer. Le kinésithérapeute, bah, je ne sais pas moi, si on a une jambe cassée, on s'est fait une déchirure musculaire, bah, il va rééduquer le membre cassé, rééduquer le muscle qui ne fonctionne pas bien. Le psychomotricien, par exemple, si une personne âgée est tombée, on va prendre cet exemple-là qui est assez concret, parce que c'est, en plus, c'est une des choses qui arrive très fréquemment. Une personne âgée, elle peut ne pas avoir de fracture et pourtant, elle peut ne plus avoir envie de se lever, elle peut ne plus avoir envie de marcher, elle peut avoir peur de marcher, etc., etc. Et le psychomotricien, du coup, il va agir sur le fait que la personne ne se sente plus capable de marcher parce qu'elle a des émotions négatives, donc il agit sur sa motricité, qui l'empêche d'aller en relation avec les autres. Et donc, du coup, elle va travailler sur ça, sur le fait de reprendre confiance en ses capacités internes, dans son propre corps, dans ses appuis, dans son équilibre, pour ensuite pouvoir, dans le fait de s'apaiser sur ces émotions-là, sur son angoisse, pour ensuite pouvoir reprendre une action sur son environnement et sur la marche, etc.
Donc, voilà. La reprise de confiance, c'est en amont ?
Oui, c'est en amont et c'est aussi par l'expérience,
de l'aspect moteur.
C'est aussi par l'expérience, en fait, quand on a des expériences motrices positives.
Oui, d'accord. Donc, c'est les deux en même temps,
c'est
en fait.
Les deux en même temps, en fait. C'est un peu une boucle. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, c'est les personnes qui se restent alitées tout le temps au lit. Voilà. C'est comment elles vont percevoir leur corps alors qu'elles sont tout le temps dans la même position. Ça peut être inconfortable, ça peut entraîner des douleurs. Comment les personnes se focalisent au niveau de leur corps sur les douleurs et comment elles finissent par se représenter leur corps. Donc on a tout ce travail-là aussi pour maintenir le plus d'apaisement vis-à-vis de ces ressentis corporels aussi en tant que psychomotricien. Et c'est pour ça qu'on a une place aussi dans tout ce qui va être accompagnement en soins palliatifs. Et en EHPAD, ça a toute sa place.
Ouais.
Et ça me tient à cœur aussi parce qu'au sein de l'établissement, je suis référente en soins palliatifs. Donc voilà, c'est quelque chose aussi où on est vraiment dans l'approche globale. Voilà.
D'accord. Et en soins palliatifs, par exemple, qu'est-ce que tu fais ?
Par exemple, je peux proposer des massages du corps. Alors, ce n'est pas comme des kinés, hein, c'est pas l'objectif, ce n'est pas d'enlever les contractures, etc. Mais c'est vraiment de réunifier les sensations du corps pour que la personne se sente apaisée et qu'elle ait un moment à elle où on ne parle pas de la maladie, on parle pas, on évite de parler de la douleur, on ne focalise pas sur les endroits du corps qui peuvent être douloureux. Et on réunifie vraiment la sensation globale. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire souvent. Ou des séances de relaxation, de sophrologie. Mmh. On peut passer par cette médiation-là aussi pour pouvoir apaiser la personne et qu'elle vive des moments agréables et confortables, on va dire.
Okay.
Quand on est psychomotricien dans un établissement, dans un EHPAD en tout cas, on est le seul professionnel paramédical autre que les infirmiers. Les kinés interviennent en libéraux. Et c'est très rare qu'on ait un ergothérapeute avec nous, mmh. qui est une autre profession paramédicale, et on nous confond souvent. Et donc, on doit souvent, enfin en tout cas, moi je dois souvent, faire des tâches qui ne sont pas liées à mon métier.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a du dépassement de fonction, on va dire. En tout cas, bon, c'est comme ça ici. Donc, je m'occupe aussi de l'installation, de la mise en place des fauteuils roulants, des déambulateurs... des matelas à air, du matériel pour aider à faire les transferts, etc. Donc ça occupe une partie de ma journée, parce que ça, c'est indispensable à la personne directement dans son autonomie. C'est une urgence presque. Voilà. Donc il y a cette partie-là. Ensuite, il y a la partie vraiment de mes suivis que je peux faire, qui sont soit individuels, soit en groupe. Donc il y a aussi des groupes qui peuvent être faits, un atelier danse par exemple, toutes les semaines, et les personnes viennent... faire de l'expression corporelle, voilà. On travaille plein de choses sur le corps, l'équilibre.
C'est sur la base du volontariat ou...
Souvent, c'est des personnes que j'ai ciblées.
D'accord.
Avec ma collègue psychologue, souvent, on réfléchit ensemble aux personnes pour lesquelles ça pourrait être bien, et selon leur histoire de vie, leur centre d'intérêt aussi. Hein.
Ok.
Voilà. Donc, il y a cette partie-là aussi de suivi individuel et de groupe. Et puis après, il y a... il y a la partie, ça fait partie des suivis individuels, mais d'accompagnement en soins palliatifs, où là, on va passer un peu tous les jours, en fait. Voir comment la personne va, et si elle a besoin sur le moment.
Ok. Voilà.
Donc, il y a des temps un peu où on n'est pas fixé, on n'a pas un emploi du temps fixé, et où on vient au moment où la personne semble avoir besoin, soit parce qu'elle est très douloureuse à ce moment-là, soit parce qu'on vient juste dire un petit coucou tous les jours pour savoir comment ça va, et à ce moment-là, c'est le bon moment pour faire... la séance
et quelque chose. Donc en fait, quand tu arrives le matin,
je sais pas ce que je vais faire.
C'est ce que je vais faire. Et c'est toi qui organises ton emploi du temps. Finalement.
Exactement. Donc c'est un métier assez indépendant sur ça. Donc ça, c'est assez plaisant aussi.
Ouais.
Mais mis à part certaines choses qui sont fixes, hein, les ateliers, il faut que ça soit fixe parce que c'est important pour les résidents qu'il y ait des repères aussi au niveau temporel. Donc c'est tous les vendredis de 14h à 15h ou les jeudis 14h 15h, il y a la médiation animale. Enfin voilà, c'est des choses très fixes comme ça. Mais sinon, le reste, c'est un peu plus en fonction du besoin du résident. Voilà. Il y a des résidents qui repèrent notre bureau, juste par exemple, et qui viennent tous les matins et qui passent 35 minutes dans notre bureau juste pour être avec nous, avec moi et ma collègue psychologue, parce que ça leur fait du bien.
Mmh.
Voilà. Donc on peut, et c'est quelque chose où on ne peut pas...
Oui, bien sûr,
voilà.
Vous ne pouvez pas le prévoir, c'est un peu de l'urgence. C'est quelque chose qui n'est pas prévisible.
Oui, exactement. Et c'est un peu une chance dans notre métier et en EHPAD, parce qu'on a le temps de prendre le temps avec les résidents. Contrairement à beaucoup d'autres soignants, infirmiers, aides-soignants, où eux, c'est compté, on va dire. Leur temps est compté.
Y a-t-il des psychomotriciens dans tous les EHPAD ? J'ai pas l'impression.
Alors, il y a eu le plan Alzheimer qui a eu lieu 2008-2012, je crois, qui recommandait qu'il y ait soit un psychomotricien, soit un ergothérapeute. En établissement, en EHPAD. Donc pas forcément sur des temps complets, parfois sur des services particuliers, comme ce qu'on appelle les PASA. Nous, on n'en a pas à Fontaudin, mais c'est un pôle d'activité et de soins adaptés, où c'est des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui vivent en EHPAD, et qui viennent passer la journée. Donc souvent, les psychomotriciens ou ergothérapeutes sont responsables. Mais il n'y en a pas dans tous les établissements, effectivement. C'est quelque chose quand même qui tend à se développer.
Et c'est quoi la différence avec l'ergothérapeute ?
L'ergothérapeute, alors nous, le psychomotricien, il agit vraiment sur les compétences de la personne en interne.
Mm-hmm.
Et l'ergothérapeute, il va essayer de pallier les difficultés de la personne par la mise en place de matériel.
D'accord.
Voilà. Donc
c'est plus externe.
C'est plus externe, c'est une aide extérieure. La mise en place de fauteuils, parce qu'il n'arrive plus à se déplacer, ou d'une aide externe un déambulateur parce qu'il n'arrive plus à marcher, qu'il a besoin de se sécuriser. Donc c'est vraiment des métiers complémentaires en fait.
Mais il n'y a pas les deux professions.
C'est rare qu'il y ait les deux.
Et la psychologue, elle est indépendante ?
Non, elle est salariée de l'établissement.
Elle est salariée de l'établissement.
Okay. Elle travaille à 70% sur l'EHPAD et à 30% sur l'accueil de jour en tant que chef de service.
D'accord. Voilà. Ah oui.
Voilà.
Vous êtes...
On est multitâche.
Ouais, polyvalente.
On est polyvalente. Et en sachant que j'ai aussi un autre rôle dans la structure,
oui.
Je suis responsable d'un pôle ressources. Et un pôle ressources, c'est un service qui est sur la prévention de la perte d'autonomie et la prévention des fragilités des seniors. Et du coup, c'est ouvert sur la ville de Pessac. Donc, c'est au service de tous les seniors de plus de 60 ans de Pessac. Et on met en place des actions pour les aidants. Les seniors qui sont angoissés, stressés, etc. Les seniors qui ont des problèmes de sédentarité, qui n'arrivent pas à faire du sport ou d'activité physique, etc.
C'est super. Plein de choses, et donc quoi. Ça, c'est au sein de Fontaudin ?
Oui, ça, c'est au sein de Fontaudin aussi.
Ah oui,
voilà.
Donc c'est aussi un métier à temps complet, finalement.
Ouais, mais j'ai que 30% pour ça. Voilà, j'ai 30% pour ça, 70% de psychomotricienne sur l'EHPAD.
D'accord, ouais.
Mais il faut partager son temps entre tout ça. Voilà.
Donc, ok. Ouais.
Voilà, globalement.
Et dès qu'une personne arrive, est-ce qu'il y a un processus d'accueil ? Tu vas voir la personne, tu te présentes, tu fais un espèce de
bilan,
de diagnostic ?
Alors, en fait, pour chaque personne qui arrive, on lui laisse un peu le temps de prendre ses repères, bien entendu, mais forcément qu'on va se présenter. Il y a des personnes, c'est plus rapide que d'autres parce qu'elles sont moins autonomes. Donc, dans la semaine suivant son arrivée, on va déjà... bien les connaître, voilà. Mais ça, c'est valable pour chacun des professionnels. Donc, c'est-à-dire que l'infirmier va faire un petit recueil de données sur les antécédents médicaux. La psychologue, elle va recueillir l'histoire de vie, les centres d'intérêt, l'histoire familiale un petit peu. S'il y a des antécédents aussi au niveau psychologique, elle va faire un petit entretien avec le résident qui arrive. Et moi aussi, en tant que psychomotricienne, je vais les rencontrer pour voir... s'ils ont des difficultés. Donc il y a un bilan psychomoteur qui peut être fait. Selon le niveau de dépendance de la personne, c'est pas forcément évident de le faire. Et du coup, ça se base beaucoup sur l'observation, en fait. Progressive, au sein d'activités où petit à petit, on va comprendre un peu les problématiques de la personne. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'un bilan psychomoteur, il en existe pour les personnes âgées en EHPAD, hein, mais c'est assez récent. Et parfois, on peut pas... Ils sont plus en capacité de répondre à des consignes, etc. etc. Donc là... on les met pas en échec et on essaie de faire autrement.
D'accord.
Voilà. Mais c'est vraiment apprendre à les connaître et à observer un peu qui ils sont et ce qu'ils sont. Voilà.
Ouais. Ça doit pas être facile de deviner de quoi ils ont besoin. Enfin.
Ouais.
Quand la personne elle peut plus s'exprimer, ça doit être difficile.
Complètement. Et alors moi je dis souvent ça, je dis ça à mes stagiaires aussi, mais en fait on a l'obligation de se donner le moyen. D'essayer de répondre à ses besoins. Et on a le droit à l'erreur aussi. La seule chose, c'est qu'il faut se rendre compte que ça va pas et que c'est pas bien, peut-être pour la personne, et d'être capable de se dire je reviens en arrière, j'ai proposé ça, mais ça lui convient pas. Et donc on fait autrement.
Et comment se passent les relations avec les familles ?
Les relations avec les familles. Alors ça se passe bien.
Par exemple, si tu prends une décision pour un résident,
oui.
Est-ce que tu vas. La prendre toute seule, est-ce que tu vas consulter la famille, enfin,
alors ça dépend pourquoi en fait. Si c'est une décision où la personne, on va par exemple, je sais pas moi, décider de quelque chose qui pourrait limiter sa sécurité, enfin limiter sa liberté, on va dire, ou quelque chose comme ça. Alors je parle au niveau global, hein, au niveau de mon métier c'est un peu différent, mais... là, forcément, que la famille, on va lui en parler. Je parle, par exemple, de la mise en place de l'unité protégée. Forcément que la famille, elle est au courant. Enfin, ça ne peut pas se faire autrement. Moi, dans mes suivis individuels, c'est plus informel.
Voilà, c'est ce que je me demandais.
Ouais, c'est plus informel, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on décide dans l'établissement, dans le projet d'accompagnement personnalisé de la personne, que je vais utiliser telle ou telle médiation, que je compte m'occuper de telle ou telle personne. Mais c'est plus une décision collégiale avec les infirmiers, la psychologue, le médecin, etc. Et ensuite, lors de la présentation du projet d'accompagnement personnalisé, ils sont au courant de ça. Mais on va dire qu'ils sont rarement contre les familles, parce que c'est souvent des trucs qui sont chouettes, qu'on leur propose. Donc souvent, c'est bien pris.
Okay.
Et puis après, ce qui est bien, c'est de faire un petit retour, par contre, aux familles. Parce qu'ils se rendent, les personnes, surtout des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple, elles ne racontent pas.
Ouais.
Donc c'est aussi passer par d'autres médias, donc prendre des photos, parfois, je ne sais pas moi, si on fait un atelier danse ou des choses comme ça, pour dire on fait ça, et regarder le sourire qu'elle avait à ce moment-là, et qu'il y ait du concret derrière, en fait.
Mmh.
Voilà. Pas forcément rentrer dans l'aspect technique, mais juste le plaisir qu'ils ont pris à ce moment-là. Voilà.
Ok.
C'est aussi ça.
Oui, parce que les familles sont en demande d'informations et de...
Et
elles veulent savoir ce qui se passe, en fait. Donc,
c'est ça.
Pour ça que je me demandais, est-ce que peut-être aussi tu fais des massages en soins palliatifs, est-ce que tu leur dis quand tu les vois ou
Alors, en soins palliatifs, c'est encore un truc un peu particulier. Oui, là, forcément, souvent, les personnes en soins palliatifs, les familles peuvent être très présentes. Donc, il y a l'accompagnement de la famille. Et parfois aussi, c'est bien de... Je peux proposer aux familles de rester pendant le massage ou de leur montrer comment masser.
Mm.
Comme ça, eux, ils se sentent
utiles,
impliqués auprès de leurs proches, parce que des fois, on ne sait pas quoi faire quand on est en train de perdre notre proche. On se sent un peu au dépourvu et du coup, c'est aussi pouvoir les impliquer et continuer à leur dire que de toute façon, dans le lien affectif, ils feront toujours mieux que n'importe qui de nous et ce qu'ils feront, c'est très bien auprès de leurs proches. Donc, c'est aussi les soutenir dans cette relation-là par l'aspect technique, mais aussi juste par le fait qu'ils puissent s'autoriser à faire ce genre de choses. Voilà.
Et donc, toi, qu'est-ce qui t'anime dans ton métier ?
Ce qui m'anime dans mon métier... Alors, c'est très basique, beaucoup de soignants pourront dire ça, mais c'est la rencontre à l'autre. Ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'au-delà de la maladie, des troubles, etc., on se rencontre d'humain à humain, en fait. Donc ça me plaît énormément. Et je me sens parfois chanceuse de rencontrer certaines personnes âgées aussi, parce que j'ai rencontré des gens... super, qui ont une philosophie de vie, etc., qui nous fait grandir, en fait. Donc, c'est aussi ça qui m'anime. Et puis j'aime la relation, en fait. Donc, j'aime être avec les autres, quoi. Voilà. Et du coup, ça me nourrit, en fait. Et même si c'est pas des choses parfois très concrètes qu'on fait, ou c'est juste du temps de présence, ça semble être utile pour les personnes qu'on accompagne. Donc... ça m'anime aussi.
Est-ce que tu as moyen d'avoir des retours, justement, des retours
Par exemple, il y a une dame qui a une maladie d'Alzheimer assez importante, qui est très angoissée et qui confond parfois sa mère, sa fille, etc., etc. Et qui, tous les matins, quand elle passe devant mon bureau et celui de ma collègue Psychomote, elle nous fait coucou, elle nous dit « Ah, celle-là, je l'aime bien !» Alors qu'elle a des troubles cognitifs très avancés. Et donc je me dis, y a quelque chose qui se passe dans la relation au-delà de la maladie qui fait qu'il y a des liens qui se tissent et voilà. Et c'est pas de l'affection comme on peut avoir, parce qu'on nous dit toujours la distance professionnelle, c'est très important. Alors c'est certain, mais d'humain à humain, il y a une sorte de... On fait tous partie du même monde, de la même humanité et voilà, on reste en relation comme ça. Voilà. C'est très utopique, ce que je dis. C'est un peu bisounours, mais moi, c'est ce que je ressens, en tout cas.
Ouais. Voilà. Ouais, non, c'est pas bisounours du tout, c'est humain.
Ouais, voilà.
Et en tant que psychomotricienne, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ton principal combat ?
Mon principal combat, j'en ai plusieurs, on va dire. Si on s'axe juste sur le métier de psychomotricien, c'est que ce métier soit reconnu... pour ce qu'il est en tant que tel et pas pour combler toute... J'ai dit que je faisais beaucoup de choses, alors c'est très intéressant, mais je peux aussi dire qu'on comble pas mal les trous en faisant d'autres missions. Donc peut-être ça.
Quand tu disais ça tout à l'heure, je voulais te demander, les missions que tu fais, c'est les missions de quelqu'un d'autre ? Est-ce que ce sont des missions qui sont attribuées normalement à une autre fonction ?
Par exemple, la mise en place de fauteuils, etc., c'est censé être le travail d'un ergothérapeute. Moi, j'ai pas du tout de formation sur ce sujet-là.
D'accord.
J'ai appris sur le tas... j'ai appris en me questionnant, en demandant, je n'ai pas du tout de formation sur ça. À mon école, on ne nous apprend pas ça.
Voilà. Donc, une personne qui doit s'occuper de ça, qui n'est pas là, en fait.
Voilà, qui n'est pas là, parce que moi, je suis à temps plein et que du coup, il faut accepter de dépasser ses missions pour accepter ou pas. Mais si on ne veut pas précariser son poste, des choix. On est des salariés et il y a des salariés, il y a des choix à faire, quoi. Ouais. Voilà. Donc, bon, en tant que psychomotricienne, ça serait ça mon combat. Mon combat, ça serait peut-être aussi qu'il y ait plus de budget alloué pour des actions non médicamenteuses, des thérapies non médicamenteuses. En fait, ce qu'on ne sait pas trop, c'est que dans les EHPAD, on répond à des appels à projets pour avoir de l'argent, pour monter des projets un petit peu autres. Donc, pour faire un atelier danse, par exemple, si moi, je l'anime toute seule, il n'y a pas besoin de budget autre. Mais si je veux faire un truc un peu particulier, avec en plus une danse thérapeute ou une chorégraphe, ou etc., il faut que je fasse un appel à projet où je réponds à quelque chose et on nous alloue un budget. Voilà. Donc, ça se fait auprès la G2R, Malakoff, enfin, il y en a plein, quoi. Voilà. La conférence des financeurs du département, enfin... Il y a plein d'endroits comme ça qui peuvent nous allouer des budgets, mais ça demande du temps. Et donc, il faut être motivé et s'investir dans ça pour pouvoir monter ces projets-là. On n'a pas l'argent, sinon. C'est pour que les gens sachent globalement, les familles et tout ça.
En pratique, tu peux avoir ce temps-là pour travailler un peu sur ces appels à projets?
Eh ben, on le fait avec ma collègue psychologue et avec ma collègue responsable des soins aussi. Donc là, on a les clowns stéthoscopes qui viennent depuis maintenant 4 ans et demi, 5 ans ici. Ils viennent tous les 15 jours. Donc, les clowns stéthoscopes, c'est la même association de clowns thérapeutiques, on va dire, qui interviennent dans les hôpitaux des enfants et qui ont une formation spéciale en gériatrie pour intervenir auprès de personnes isolées par la maladie neurologique, souvent, ou neurodégénérative, ou avec des troubles de la communication, etc. Donc, voilà. Donc là, ça, par exemple, c'est un projet qu'on a monté et qu'on refait tous les ans pour avoir de nouveau le budget pour qu'ils puissent revenir.
Okay.
Donc c'est pas pérennisé. On a fait un atelier de danse aussi, on a fait un atelier pour de l'art thérapie, enfin un appel à projet pour de l'art thérapie. Donc on trouve le temps, mais on peut pas les multiplier quoi.
Oui.
On a un budget qui est alloué par l'ARS tous les ans, qui est stable. C'est une enveloppe que l'ARS nous donne. Et au sein du pôle ressources de Fontaudin, on met en place des ateliers de relaxation, des ateliers d'activité physique adaptée, des ateliers mémoire, un café numérique. Et on fait aussi des groupes de parole pour les aidants. Donc pour les aidants qui vivent encore à domicile. Cette année, on vient de monter deux autres groupes pour les aidants. Un groupe parce que... Une fois que la personne est entrée en EHPAD, on dit « elle n'est plus aidante ». C'est un peu raide.
Ouais.
Et je pense que tout le vécu qu'il y a eu avant fait que la personne doit s'adapter. L'accompagnant, hein, l'aidant, doit aussi s'adapter au fait de plus devoir s'occuper de son proche tous les jours, au fait de devoir avoir confiance dans l'établissement, au fait de devoir... Il y a beaucoup de choses qui se jouent. La culpabilité, enfin, il y a énormément de choses. Et du coup, on a monté un groupe sur l'entrée en EHPAD de mon proche.
D'accord.
Voilà. Donc c'est ouvert pas aux personnes uniquement qui ont leurs proches qui rentrent à l'EHPAD de Fontaudin, hein, mais vraiment sur toute la Gironde, plutôt la Cube bien sûr géographiquement, mais vraiment sur ça. Et on fait un autre groupe aussi qui est un groupe de prévention des troubles musculo-squelettiques pour les aidants, parce qu'on sait qu'à domicile, les troubles musculo-squelettiques, c'est les maux de dos, le mal de dos, le mal, etc. partout. Parce qu'on est obligé de mobiliser son proche, parce que même s'il y a un service infirmier qui vient, même s'il y a un service d'aide à domicile, des fois, ça tombe sous... Enfin, les besoins sont présents, même si les aides ne sont pas présentes. Donc, c'est l'aidant qui aide la personne à se mobiliser. Du coup, on met en place un groupe de formation pour apprendre les bons gestes, pour ne pas se faire mal quand on est aidant. Voilà.
OK.
Donc, ça, c'est autofinancé par le pôle ressources. Il n'y a pas besoin de faire d'appel à projet. Il faut juste être un peu innovant et réfléchir aux besoins, en fait, que pourraient avoir des seniors ou des aidants.
Oui,
ça fait appel à la créativité.
Oui, puis eux peuvent suggérer.
Et eux peuvent suggérer aussi. Eux peuvent suggérer aussi. Et on fait des rencontres avec les autres professionnels du territoire aussi. Voilà. Et on essaie de monter un groupe de parole spécifique à la maladie à Cordelévy. Ça n'existe pas encore. Spécifique à une maladie neurodégénérative. On est en lien avec l'association française sur la maladie à Cordelévy. Et on attend de voir si ça va pouvoir se mettre en place.
D'accord.
Voilà. Et ça, c'est pas sûr.
Ok.
Voilà.
Oui, donc plein de projets.
Ouais. J'ai pas parlé de mon combat principal. Enfin, un de mes combats principaux. Un de mes combats principaux, mais c'est un peu dans l'actualité aussi. C'est sur la fin de vie. Donc, c'est sur l'accompagnement de fin de vie en EHPAD. On est peu pris en compte dans les nouvelles lois qui vont passer, etc., sur la fin de vie. En tout cas, on est peu écouté, les EHPAD, j'ai l'impression. Alors, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est que j'espère que dans la loi, tous les départements pourront être dotés de services de soins palliatifs, parce qu'il faut savoir qu'on parle de la fin de vie, voire du suicide assisté, de l'euthanasie, etc., mais il y a un pourcentage assez important en France de départements qui n'ont aucun service de soins palliatifs. Donc déjà, commencer par là, peut-être. Mmh. Et ensuite, en EHPAD, c'est qu'on nous demande de faire le service de soins, le travail d'un service de soins palliatifs, d'accompagner les personnes en fin de vie à moyen constant. Donc il faut savoir qu'on n'a pas de budget en plus, etc., pour faire ce travail-là. Comme on nous demande de prendre en charge des résidents qui viennent de tomber, d'avoir une fracture, parce qu'ils ne peuvent plus aller en SSR, en service de soins de suite et de réadaptation. Mais c'est à moyen constant. Donc on est devenu un peu les lits d'aval, je ne sais pas comment on dit, des hôpitaux. Oui. Voilà. Ouais. Mais à moyen constant, en fait. Donc ça, c'est un peu mon combat aussi, c'est qu'on soit reconnu dans notre reconnu et revalorisé financièrement, hein, je parle. Voilà, pour faire ce travail-là correctement, en fait.
Accompagner à la fin de vie.
Accompagner à la fin de vie.
Avec les moyens nécessaires.
Avec les moyens nécessaires, c'est ça. Parce que ça prend plus de temps. Mmh. Et qu'un service de soins palliatifs, c'est pas forcément... C'est peut-être plus complexe, les pathologies, hein, forcément, mais il faut savoir que c'est 2 infirmiers pour 12 patients. En sachant que nous, on a un aide-soignant pour une dizaine de résidents. Mmh. Et on a un infirmier l'après-midi pour 96 résidents.
Ah oui.
Voilà. Donc, on utilise les HAD, on conventionne, on a des équipes mobiles, etc. On fait ce qu'on peut. Mais voilà, c'est juste qu'on ait conscience de ça, en tout cas.
Ouais. Et donc, tout ça, c'est décidé par l'ARS.
En fait, c'est les dotations. Nous, on est un établissement associatif à but non lucratif. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le département et l'ARS, le conseil départemental et l'ARS, se mettent d'accord pour donner tant de budget en fonction du nombre de résidents qu'on a et du niveau de dépendance de nos résidents. C'est un peu complexe, hein, y a un calcul savant qui doit être fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fonction de ça, ils allouent un budget du nombre de soignants, et en fonction de ça, va dépendre le nombre d'infirmiers, d'aides-soignants, etc., etc. Comme on est un EHPAD associatif à but non lucratif, tout ce que payent les résidents repart dans... Enfin, est utilisé, en fait. Il n'y a pas d'actionnaire. Voilà, hein. À la fin de l'année, notre objectif, c'est d'être à zéro. Sur le plan financier, d'être à l'équilibre.
Ouais.
Voilà. Et donc, on ne peut pas faire de dépenses supplémentaires en soignant, enfin, si on ne nous a pas alloué une enveloppe supplémentaire, quoi. Donc, c'est vraiment une question de politique de santé.
Ouais. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais ? Outre l'allocation de budget.
Oui, parce que forcément, j'allais répondre ça. Non, il y a plein de choses qu'on pourrait faire aussi sur le domicile, sur l'accompagnement des aidants à domicile. Mmh. On en a beaucoup parlé de ça, de... Occupez-vous de vos proches à la maison, mais quels moyens sont mis en place pour le domicile ? Enfin, y a
toi, t'aurais pu faire ça, non ?
Faire du domicile ?
Oui.
J'en ai eu fait. J'en ai eu fait à titre libéral, un petit peu. Et j'en ai eu fait parce que je suis un peu intervenue au sein de la plateforme de répit et de soutien aux aidants qui intervient à domicile. Mais c'est pas suffisant, en fait. Comme les personnes qui accompagnent leur mari, par exemple, qui sont toujours en activité professionnelle. Enfin, ça les met dans des situations qui sont très, très compliquées, je pense. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien de vouloir dire le domicile jusqu'au bout, mais à quel prix pour les dents, comment les accompagner pour que ça soit fait correctement, sans souffrance ni pour l'aider, la personne malade, ni pour les dents aussi, qui s'oublient souvent. Donc voilà, il y a toujours... Donc il y a ça, il y a tout un truc sur ça. Et après, juste... Et peut-être quelque chose, mais là, c'est aussi pour ça qu'on fait peut-être ce podcast, c'est que l'image des EHPAD, et même auprès de ma famille, est souvent négative. Voilà. Alors que je trouve que moi, je travaille avec plein de personnes qui ont beaucoup de cœur, qui aiment vraiment leur métier. Et du coup, c'est bien aussi des fois de le dire.
Oui, voilà. C'est bien.
Il faut le dire. Voilà.
Il faut le dire.
C'est juste ça.
Oui. En tout cas, moi, je rencontre toujours des super personnes, donc j'ai pas du tout une image négative.
Ouais.
je rencontre souvent des gens passionnés.
Oui.
Vraiment.
Ouais, ouais. Ouais, c'est... Ouais. Mais parce que c'est un lieu passionnant.
Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, rien du tout. Merci. Merci pour votre écoute. Voilà. Merci d'avoir essayé de faire connaître un peu le métier de psychomote. J'espère que les autres psychomotriciens se reconnaîtront et voilà, et qu'ils n'hésitent pas aussi à se faire connaître.
Oui, à partager leur expérience.
À partager leur expérience.
Et voilà. Plaisir. Merci Marie.
Ouais, je vous en prie.
Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, contactez-moi via le site internet de l'Inesti, www.linesti.com. Merci à tous et à bientôt.